Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous nous penchons sur la lutte contre les mines antipersonnelles. 15 ans après l'adoption de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, qui proscrit totalement ces armes, nous faisons le point sur les progrès effectués, et ce, avec divers partenaires sur le terrain, à savoir la campagne internationale pour interdire les mines, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et la Fédération Handicap International. Bonne écoute. Quand les mines antipersonnelles sont présentes, la fin d'une guerre ne sonne pas la fin des souffrances. Aucun continent n'a été épargné de ce fléau. Les mines terrestres et les engins non explosés continuent de menacer des millions de gens et de rendre des champs incultivables ou des sources d'eau inaccessibles, mettant des ressources économiques indispensables à la reconstruction hors de portée des populations les plus pauvres. C'est pourquoi, en 1997, la communauté internationale a adopté la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles qui interdit totalement ces armes. Depuis son adoption, le nombre de victimes a été réduit de 75%. Néanmoins, de grands défis persistent, notamment l'élimination de ces engins et l'amélioration de la situation des victimes. Au micro d'Alpha Diallo, Sylvie Brigaud, directrice générale de la campagne internationale pour interdire les mines. Ce réseau, lancé par 6 organisations, est présent dans plus de 100 pays. Il a reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ses efforts en vue de l'adoption du traité de 1997 sur l'interdiction des mines. Sylvie Brigaud explique ce que représente aujourd'hui le problème des mines.
L'état des lieux des mines dans le monde s'est beaucoup amélioré avec l'existence et l'application de la Convention pour l'interdiction des mines antipersonnelles, à laquelle 159 États ont adhéré aujourd'hui. Donc on a tous ces États qui se sont engagés à ne plus utiliser ces mines antipersonnelles. Plus de 45 millions de mines antipersonnelles ont été détruites depuis l'entrée en vigueur de la Convention, mais aussi de porter assistance au déminage et déminer les territoires contaminés. Vous avez aussi une chute assez drastique du nombre de victimes grâce au programme de déminage, grâce au programme d'éducation dont des mines pour les communautés qui doivent encore vivre dans les zones qui ne sont pas encore déminées.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces victimes ? Est-ce quelles sont les dernières données que vous avez ?
Aujourd'hui, on enregistre autour de 4000 nouvelles victimes de mines antipersonnelles tous les ans. Donc c'est une chute assez drastique et importante par rapport aux 20 000 que nous enregistrions il y a 20 ans au tout début de cette campagne. Alors c'est dû effectivement au programme de déminage, mais il ne faut pas oublier que c'est 4000 victimes de plus chaque année. Donc vous imaginez bien évidemment que ça peut être quand on a une jambe en moins, un œil en moins et qu'on ne peut pas se déplacer et travailler normalement.
Mais d'où sont originaires ces victimes des mines antipersonnelles ?
L'Afghanistan, l'Angola, la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge, le Tchad, la Thaïlande. Mais bien évidemment, récemment, on a entendu parler de l'utilisation des mines en Libye et en Syrie, donc au Moyen-Orient aussi, au Liban, bien évidemment, vous avez aussi des mines et des bombes à sous-munitions, pour ne citer que les plus touchés.
Et par rapport à cette utilisation de mines antipersonnelles ou d'autres mines, qu'est-ce que vous pouvez en dire davantage par rapport à cette situation en Syrie ?
Pays dans lesquels on a pu dénoncer l'utilisation nouvelle de mines antipersonnelles sont les forces armées syriennes qui ont posé des mines en fait à leur frontière avec le Liban en novembre dernier et puis plus récemment avec la Turquie. C'est l'association Human Rights Watch qui a documenté l'utilisation de ces mines où l'on sait que les forces armées syriennes ont été vues déposer des mines donc aux frontières dans des villages sur la route par lesquelles en fait les réfugiés fuient les atrocités qui se passent en ce moment en Syrie. Et donc Human Rights Watch avait documenté notamment à travers l'entretien d'un jeune démineur qui avait commencé avec certains de ses collègues en fait à enlever les mines de manière à pouvoir sécuriser le passage des réfugiés et qui a documenté donc la présence de ces mines antipersonnelles d'origine russe très dangereuses que les armées avaient posées dans ces zones frontalières.
Mais est-ce que les États continuent à produire des mines antipersonnelles ?
12 États en fait continuent, mais seuls 3 en fait continueraient activement à en produire. Il s'agit de la Birmanie, Myanmar, de l'Inde et le Pakistan. Les autres États de cette liste se réserveront le droit, mais ne les produisant plus activement.
Comment accroître le soutien aux personnes blessées par des mines ?
La Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles a des obligations vis-à-vis des survivants que les États se sont engagés à respecter, notamment pour leur faciliter évidemment l'accès aux soins, mais aussi l'accès à la rééducation, l'accès à la formation pour recommencer une nouvelle vie après l'accident et faire en sorte qu'ils retrouvent une nouvelle place dans la société après l'accident. Tous ces droits aussi sont bien évidemment en lien avec la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Toute cette série de droits est très importante pour tous nos collègues survivants qui font campagne avec nous, de manière à ce que les États prennent au sérieux leurs obligations, ces petites choses qui font qu'au final, les personnes handicapées et donc les victimes de mines aient leur place et retrouvent leur place dans la société, dans la communauté.
Trop de pays n'ont pas signé les traités contre les mines et les bombes à sous-munitions. Réagissons.
Autre coup de projecteur, celui sur les activités du Comité international de la Croix-Rouge. Activité vouée depuis 20 ans à la lutte contre les mines antipersonnelles. Le CICR s'occupe principalement à encourager les États adhérés à la Convention d'Ottawa à réduire le nombre de victimes et à porter assistance aux personnes frappées par ces engins néfastes. Nicole Hogg est conseillère juridique dans la section des armes du CICR. Au micro de Jean-Pierre Amissi Ramazani, elle revient sur les activités du comité.
On est actif dans 27 pays. La plupart des pays qui reconnaissent une responsabilité envers un nombre important de victimes des mines. En ce qui concerne le déminage et les activités de réduction des risques, d'éducation, etc., la Libye, le Cambodge, où on essaie d'encourager les gens de ne plus s'engager dans les activités dangereuses, mais on encourage les programmes de microcrédit, par exemple, avec la Croix-Rouge locale. En Afghanistan, on a des grandes opérations depuis longtemps dans les hôpitaux où on forme l'équipe médicale qui reçoivent les nouvelles victimes, donc qui savent comment traiter ces personnes parce que les blessures des mines ne sont pas comme les autres, donc il faut une formation spécifique, il faut l'équipement. Et puis, après l'accident initial, il y a évidemment le travail long terme pour ces personnes. Souvent, il y a une réhabilitation physique et psychologique à faire. Donc nous travaillons dans les cliniques pour porter aide au niveau des prothèses, les orthoses.
Quels sont les types de mines qu'on retrouve généralement sur le terrain?
Il y a les mines traditionnelles qui existent depuis longtemps et dont certains sont en train de se dégrader. Ça dépend quand ils ont été posés, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de mines antipersonnelles qui sont improvisées actuellement parce que la convention a eu un tel effet que le marché est plus restreint, c'est plus difficile d'obtenir ces armes traditionnelles. Donc de plus en plus, surtout les groupes armés vont peut-être construire leurs propres mines antipersonnelles qui ont toujours dans la définition d'une mine antipersonnelle parce que c'est activé par les victimes, mais qui sont aussi dangereux que les mines traditionnelles qui sont de plus en plus difficiles à trouver.
Quel est le message du CICR adressé à la population, au gouvernement, aux armées, aux groupes armés et aux fabricants des mines?
On encourage tout le monde d'arrêter d'utiliser ces armes qui ne font qu'augmenter la souffrance de la population civile, de porter aide aux victimes et de polluer le terrain dès que possible, parce que chaque nouvelle victime est une victime de trop.
Enfin, troisième acteur, la Fédération Handicap Internationale, elle aussi, à l'origine du traité d'Ottawa. Son action repose sur les cinq piliers de la Convention, à savoir le déminage, la sensibilisation au risque des mines, l'aide aux victimes, le plaidoyer auprès des États et enfin la gestion et la destruction des stocks de mines. Pour autant, l'un des points forts de ces activités reste l'appui aux victimes et aux communautés. Écoutez à ce sujet Marion Libertucci, responsable de plaidoyer mines à la Fédération Handicap International, au micro de Florence Westergaard.
La plupart du temps, ce sont des civils, bien sûr, souvent des enfants. On estime qu'il y a un tiers d'enfants parmi les victimes de mines. Ce sont ces gens donc qui vont marcher sur une mine et qui vont donc soit perdre la vie, soit être la plupart du temps très grièvement blessés. Donc, on est souvent obligé d'amputer les personnes. Certaines deviennent aveugles, donc il y a une répercussion physique qui est très grave et une répercussion psychologique aussi pour ces victimes qui est très importante puisque pour elles, ça veut dire bien souvent ne plus pouvoir travailler, donc plus pouvoir subvenir à leurs besoins ou besoins de leur famille et être la plupart du temps malheureusement rejetés de leur communauté. Et puis l'autre aspect qu'on voit peut-être moins, c'est les victimes indirectes. C'est d'une part d'abord les familles de ces victimes. Par exemple, si un père de famille qui cultivait sa terre est victime de mine et ne peut plus cultiver sa terre, ça signifie une perte de revenus pour la famille au sens élargi. Si un enfant, pour la première génération par exemple, allait à l'école, donc on investissait beaucoup sur le futur en fait de cet enfant, ne peut plus aller à l'école et donc il n'y a pas d'espoir pour lui d'amélioration sociale, et bien là aussi c'est toute la famille qui est impactée. Et il y a encore un autre niveau, c'est toute la communauté des gens, des populations qui vivent dans les territoires minés, qui ne peuvent pas parfois des années après un conflit retrouver une vie normale. Et là c'est aussi scandaleux et on en parle moins. Normalement après un conflit on doit pouvoir reconstruire les bâtiments, reconstruire le réseau économique, social, et la plupart du temps la présence de mines empêche ça.
Et souvent ça prend des dizaines d'années pour enlever toutes ces mines dans ces pays qui ont été en conflit, n'est-ce pas ?
Oui, le déminage c'est vraiment un travail qui est très minutieux. Autant c'est très facile de poser des mines, c'est peu cher et ça va très vite, autant le déminage, la plupart du temps on est obligé d'avoir le déminage manuel qui est le plus efficace dans la plupart des situations, et donc c'est vraiment centimètre par centimètre qu'on doit avancer, donc c'est quelque chose qui est très long, très coûteux et qui demande effectivement plusieurs années, voire des décennies quand on pense à certains pays comme le Cambodge, l'Afghanistan ou l'Irak qui ont été très très largement minés. On sait que le chemin pour que les territoires soient totalement libres de mines est encore très long.
Concrètement, comment Handicap International aide donc les populations à retrouver une vie normale ? Vous pouvez nous donner quelques exemples de vos différents programmes ?
Alors d'une part, ça se déminer. Pour ça, il faut savoir qu'on travaille toujours en fait avec les communautés sur place. Donc on fasse du déminage, de l'éducation au risque, donc pour éviter les accidents ou de l'assistance aux victimes. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec les communautés, donc avec les organisations sur place ou avec les leaders communautaires ou de village, etc., pour vraiment identifier les priorités pour eux. Donc, qu'est-ce qui est le plus important et le plus urgent pour eux pour améliorer leur vie. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va essayer de développer nos programmes, donc voir quelle est, par exemple, la zone à déminer en priorité pour que... Est-ce que c'est plutôt important que le village ait accès, par exemple, à telle source d'eau qui est bloquée par les mines, ou est-ce que c'est plus important de commencer à déminer des champs pour que la culture de ces champs puisse repartir, etc. Donc c'est vraiment important de travailler avec ces personnes. Et donc on fait cet aspect, donc essayer d'éviter de nouvelles victimes, donc ça c'est vraiment le déminage et l'éducation au risque, qui souvent sont deux programmes qui vont être liés, parce que c'est deux volets importants pour éviter les accidents, et puis aider les personnes qui ont été blessées par ces armes à effectivement retrouver une vie normale, à pouvoir revivre debout à la fois physiquement et symboliquement. Et donc là, c'est pas seulement pour les victimes de mines le champ médical, même si bien sûr il est très important, donc tout ce qui est chirurgie, réadaptation, pose de prothèses, etc. Mais ensuite, il y a tout l'aspect soutien psychologique, parce que souvent ce sont des gens qui sont très dépressifs, qui ont du mal à voir l'utilité de vivre en fait. Et donc il est important de faire ce soutien face à la violence de l'accident par la mine, et ensuite tout ce qui est réinsertion socio-économique. Donc les aider d'une part à retrouver leur place dans la société, alors ça peut être par le sport ou par les loisirs par exemple, mais aussi les aider à retrouver une source de revenus, parce que la plupart du temps ils sont obligés complètement de changer d'activité. Par exemple, un cultivateur ne va peut-être plus pouvoir cultiver, ou quelqu'un qui devait aller au marché ne va plus pouvoir. Donc essayer vraiment de travailler avec la personne pour voir quel profil il a. Et ce qu'on pourrait lui proposer comme nouvelle activité. Donc ça va aller d'aider à monter un petit atelier de réparation de vélo ou de radio, à développer un petit commerce, ou les aider à se former à la couture. Voilà, donc vraiment essayer de cibler de façon à ce qu'ils puissent reprendre les rênes de leur vie.
Pendant et après les conflits, les BASM, les bombes à sous-munitions, tuent et mutilent des milliers de civils, en toute impunité. Dites non aux bombes à sous-munitions, avec Handicap International.
Fin de votre magazine d'escale, consacré cette semaine à un tour d'horizon des progrès et des activités de lutte contre les mines antipersonnelles depuis l'adoption en 1997 de la Convention d'Ottawa. Escale, un magazine réalisé grâce aux contributions d'Alpha Diallo, de Jean-Pierre Ramissi Ramazani, de Florence Westergaard, de Jérôme Longuet et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.fr. un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.